Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro exceptionnel de Chut, on écoute la télé. Aujourd'hui, notre coup de cœur ciné sera consacré au film Leurs enfants après eux de Ludovic et Zoran Boukherma, qui seront nos invités accompagnés de Saïd et Lalami. Et puis nos coups de cœur télé cette semaine avec le grand retour de Emma et Baptiste dans Plus belle la vie. Pauline Bression nous dit tout sur ce retour. Surprise! Elle débarque samedi à 20h30 sur M6, sa nouvelle série Nos meilleures années. Yann Guazampi, le créateur, nous dira tout sur cette nouvelle série. Et puis samedi, justement, sur France 3, un nouveau numéro des Mystères 2, la collection de Sylvette Friedman produit par Flash Film, Les Mystères du Clos des Lilas. Fanny Cottençon, qui joue avec Blandine Bellavoir, sera notre invitée. Et puis ce soir, c'est l'heure du bilan pour Brice, agriculteur de l'amour et dans le pré. On va tout savoir sur son idylle avec Marion. Enfin presque. Et puis enfin, bien sûr, aussi en exclu podcast aujourd'hui, Escort Boy débarque ce soir sur TF1 à 22h10 pour sa deuxième diffusion. À cette occasion, nous allons vous rediffuser le passage de l'équipe dans notre émission au printemps dernier. Ruben Alves, Simon Herlaché, Caterina Murino et Zaya Dehar seront avec nous. Et puis enfin, on va continuer à mettre à l'honneur les personnages de Commandant Saint-Barth avec Roxane Brett, ce coup-ci qu'on va mettre à l'honneur. On l'adore avec sa petite voix dans la série. Elle va tout nous dire aussi sur son rôle. On l'avait d'ailleurs rencontré sur le tournage en Guadeloupe, c'était en avril dernier. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui. Dans Chut, on écoute la télé. On commence tout de suite avec nos coups de cœur télé et Brice qui débarque.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et les amis, ce soir, c'est la dernière soirée de L'Amour est dans le Pré avec la dernière partie des bilans. Et on va revenir justement sur le parcours de Brice, notre saunier de la Tremblade en Charente-Maritime, qui est notre invité spécial aujourd'hui. Bonjour Brice.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. On avait fait un appel justement pour les portraits. On t'avait eu au téléphone et puis bah, c'est l'occasion, eh bien, à l'heure du bilan, de faire un peu le bilan de cette aventure. Aucun regret?
Ah non, aucun regret, non, non, ça a démarré maintenant il y a un an. Vraiment plein d'étapes hyper intéressantes, plein de grands souvenirs, une belle rencontre, on va voir jusqu'où ça va me mener. Mais non, non, bilan très positif.
Tu referais exactement tout pareil, pour le coup?
Ouais, 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 je referais exactement tout pareil. Après, évidemment, j'ai plus la naïveté que j'avais au tout début. Voilà, ça serait pas exactement pareil, mais non, non, j'ai pas de regrets sur la manière dont je me suis présenté. Je trouve que finalement, au fur et à mesure des épisodes, on a compris pourquoi j'étais encore célibataire et j'ai réussi à un peu dépasser justement dépasser ma timidité.
C'est ça, il y a un côté très timide finalement chez toi, même quand t'as accueilli justement tes deux prétendantes pour le coup à la cabane.
Ouais, en fait, pour faire des relations amicales, ça va. Mais dès qu'on bascule dans le côté un peu plus amoureux, c'était là où, d'ailleurs, ouais, on l'a vu. Il y a des fois où je suis hyper timide, je sais pas vers laquelle aller. Et finalement, tout doucement, je me laisse aller au fur et à mesure des épisodes.
Ton cœur a penché assez vite pour Marion.
Bah, je dirais qu'à la fin des speed dating, ouais, j'ai une légère préférence, mais son cadre de vie me fait un peu peur. Elle vit, c'est une vraie citadine qui bosse.
Qui vit à Barcelone, ouais.
Voilà, qui en plus bosse dans la tech, donc qui est tout le temps sur l'ordinateur. C'est une vie vraiment différente de la mienne. Et puis finalement, elle a une enfance où elle a vécu à la campagne. Et c'est une vie qu'elle aime bien, la vie de village. Et donc c'était ça que j'attendais de découvrir. Et elle m'a plutôt rassuré là-dessus. Et je dirais au contraire, Mélanie, plus les jours passaient, moi, on se faisait rire facilement. J'avais rien contre elle, mais j'avais plus de facilité à discuter, rire et à avoir envie de créer des projets avec Marion.
Je me souviens d'une partie de tennis parce que tu étais prof de tennis pour le coup sur le Club Med de la Palmière près de Royan et tu as complètement changé de vie, un virage à 360 pour le coup, en devenant le premier saunier des bords de la Seudre du côté de la Tremblade. Et il est vrai que c'est un changement de vie, mais... Tu as rien oublié quand même du revers de la raquette, puisque tu les as un petit peu toutes les deux aidées à découvrir le tennis aussi. Et je me rappelle un peu de cette scène qui était assez drôle.
Ouais. En tout cas, quand j'ai élaboré le programme, j'ai voulu caser une heure de tennis. Pas forcément pour voir leur niveau de jeu, mais pour voir un peu quel plaisir elle prenait. Et d'ailleurs, on le voit, Marion met beaucoup d'importance. Elle met beaucoup d'importance, comme elle n'est pas forcément en réussite. Et ben, on voit qu'elle est quand même assez touchée.
Surtout quand tu les mets en compétition, elle veut gagner absolument.
Ouais, elle veut gagner, mais elle y arrive pas. Finalement, c'est Mélanie qui gagnera le petit challenge. Mais en tout cas, ouais, ça m'a permis de voir. Elle est pugnace, hein, Marion. Quand elle a une idée en tête, elle voulait pas être en échec. Et donc là, elle constatait bien qu'elle l'était. Et donc du coup, ça a été, ouais, elle a vécu à fond. Et derrière Mélanie, on part du coup dans les travaux du marais. Et ouais, c'est pas, c'est sympathique, mais pas plus.
Après, tu l'as pas ménagé quand même, Marion, tu as fait découvrir pas mal de choses quand même, hein, sur le travail du sel, hein.
Ouais, donc avec Mélanie, on commence par prendre la boguette là et on fait quelques on soulève un petit peu de boue. Mais très vite Mélanie me dit "Ah, mais il faut que j'en sache plus sur toi." Moi, j'étais pas vraiment à l'aise.
C'était Marion quoi. Qui était un peu dans ta tête quand même.
Bah en tout cas, Mélanie a pas réussi à un moment donné me faire vraiment basculer en... Voilà, je me souviens à un moment donné, elle dit « Ah mais tu t'en vas, tu restes pas à côté de moi ?» Alors que si, j'allais venir à côté d'elle, on peut travailler dans le marais en discutant, mais faut organiser. Et je me souviens d'avoir fait la même scène avec Marion, où elle s'est même pas demandé où j'allais, elle sait que finalement j'allais revenir. Donc tout était un petit peu plus facile, mais peut-être que dans 10 ans, voilà...
Le fluide, en tout cas l'avenir va nous le dire. La scène évidemment de présentation à ses amis à Barcelone, du coup tu as découvert Barcelone ou tu connaissais déjà ?
Alors je connaissais Barcelone, mais vraiment de manière superficielle pour faire un petit week-end. Non, mais là, ce qui était intéressant, c'était que justement, elles avaient entendu parler de moi. Ses copines avaient vu mon portrait. Elles avaient eu le récit de son escapade dans mon marais. Et donc, elles attendaient un peu de voir là comment je me présentais. Et donc là, j'étais
tout timide sur ce coup-là.
Ouais, elles sont assez impressionnantes. Elles sont jolies, la trentaine. Elles ont l'avenir devant elles. Elles ont envie de te titiller sans te mettre mal à l'aise. Mais si elles peuvent sortir une petite blague et tout. Donc ouais, je sentais que là, c'était important que je sois à l'aise et que je dise des belles phrases.
Après un bel été, évidemment, on espère de romance avec Marion. Il y a eu le bilan, donc a été tourné à la rentrée du côté d'Arcachon. Donc on va découvrir en tout cas ce soir si Marion est au bilan avec toi. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère.
Ouais, bah ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'après notre petit week-end en amoureux du mois de juin, donc il y a eu de nouveau quelques voyages de Marion chez moi. Pour voilà, sur des durées un peu plus longues, avec des événements, des soirées d'organisées ou autres. Elle a rencontré mes parents et donc voilà, je laisse le suspense jusqu'à fin août. Ça s'est passé comme ça. Maintenant, on verra la suite.
Voilà, comment ça se passe effectivement au bilan ce soir qu'on va découvrir aux côtés de Karine Lemarchand, qui vous a préparé un beau petit week-end quand même près de la dune du Pilat là.
Ah oui, on a eu plein d'activités. Je me souviens avoir fait du yoga. Je me souviens avoir fait un cours de surf. Ouais.
Il y a une histoire de brouette ou de charrette, je sais plus si c'est Ludovic ou toi, il y en a un qui pousse, l'autre qui est dedans. Je sais pas comment ça s'est terminé cette histoire, mais vous nous avez fait très peur quand même.
Ouais, en fait, pour l'arrivée dans le camping, là, on nous donnait des chariotes pour mettre nos bagages et on s'est mis dedans et donc on se poussait et tout. Donc j'ai pas vu le résultat, mais oui, je sais qu'on a traversé le camping, chacun notre tour, debout sur la charrette, poussé par un des agriculteurs.
C'est une vraie famille, l'amour est dans le pré. C'est ce qu'on, tout ce qu'ils disent, hein, chacun les agriculteurs tous les ans. Aujourd'hui, il y a toute une alchimie qui se crée autour des agriculteurs. Il y a même l'ADP Tour, hein, l'amour est dans le pré Tour, auquel t'as participé, d'ailleurs, il y a une huitaine de jours en Corrèze. Et c'est toujours un plaisir, justement, de se retrouver. Ça permet aussi de vivre une aventure avec des personnes, du coup, qui nous comprennent. Parce que c'est quand même une aventure hors du commun.
Ouais, assez vite en fait, quand on se voit, on recoupe un peu les mêmes sensations, les mêmes émotions, et donc ça nous permet d'échanger, parce que finalement, ouais, on peut pas vraiment échanger dans le village sur ce que c'est que la médiatisation. Après, ouais, on était tous quand même plus ou moins en galère amoureux, et donc on a enrichi ce volet-là à notre vie, donc on échange beaucoup là-dessus. Finalement, on se connaît assez peu, mais on est tout de suite dans l'intime. Parce que voilà, on comprend. Alors, mais là, est-ce qu'une fois que les caméras sont parties, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait quand même l'envers du décor. Et ouais, ça nous a assez vite rapprochés. Moi, je sais pas. Je trouve qu'avec Ludo, il est exactement pareil en dehors qu'à l'écran, avec des grandes phrases. C'est un vrai poète. Gilou qui nous fait rire. Voilà, il était un très bon vivant.
Polisson, hein, le Gilles, hein, quand même.
Ouais. Bah,
toujours une petite blague de fesses, hein, dans les parages. Hein.
Bah moi il boit plus que moi, il touche plus de 5 mois. Ah, il est quand même ouais il faut le tenir.
Il est gratiné. Quels sont ceux avec qui t'as tissé les plus beaux liens?
Ouais, bah je dirais avec Ludo, on s'est bien entendu. Il y a Pascal parce qu'il est à Bressuire, donc du coup il y a une proximité. Moi je connais les Deux-Sèvres, je connais un peu Bressuire.
Valentin qui a été un peu la coqueluche de la saison aussi.
Ouais, après Valentin, de toute façon, on l'entend beaucoup. Après, il y a ceux qui, dans un groupe, de toute façon, le volume de leur voix fait qu'on les entend. Donc, il y a Stéphane qu'on entend fort. Valentin, on l'entend, il passe pas inaperçu. Donc, non, on a fait, je me souviens d'un moment sympa quand au bilan, il donne les courriers de ceux qui sont venus non accompagnés. Et donc, nous, on a regardé un peu les autres courriers. Et là, voilà, c'est hyper intéressant. Donc, c'était, on a eu plein de moments assez avec de l'émotion quand même entre nous, ouais, en dehors des caméras.
Bon, ce qu'on peut vous dire en tout cas, c'est que 8 agriculteurs sur 12, c'est un record cette année, sont venus accompagner au bilan. Est-ce que ça sera ton cas ce soir? Réponse à 21h10 sur M6. Allez, on va donner un petit indice quand même. T'embrasseras Marion de notre part.
Oui, bah non, on ménage le suspense quand même. Regardez, ça va être très intéressant.
Oui, mais t'es toujours en contact avec elle, donc qu'elle soit là ou pas au bilan ce soir, tu l'embrasseras quand même de notre part.
Voilà, on n'a qu'à dire ça comme ça. Au pire, c'est un bisou sur la joue.
Voilà, merci beaucoup Brice d'avoir été avec nous. En tout cas, on va suivre cette dernière soirée d'aventure de l'amour et dans le pré. Le bilan dernière soirée, c'est ce soir avec toi. Merci.
Merci, au revoir. Voilà, restez bien face à moi. Moi, je vais me mettre là. Donc là, vous pouvez vous placer le ventre sur la planche. Voilà, donc il va falloir essayer de se centrer. T'es trop devant. Recule-toi un petit peu. Pareil, t'es trop devant. Un petit peu, non, t'étais bien. Voilà, il faut que les pieds ils soient en dehors de la planche derrière. Donc là, vous faites semblant de ramer. Voilà, vous pouvez relever un peu le menton vers le ciel pour gainer là, pour donner de la vitesse. Serrez les pieds, serrez les fesses. Serre tes pieds. Voilà, gainez les gars. Et une fois que la vague arrive, vous êtes comme ça là. Et sans que les genoux touchent la planche, vous levez.
Allez, ne bougez pas dans un instant. Pauline Bression, Yann Guazampi, Fanny Cotenson, Roxane Brett et l'équipe du film Leurs Enfants après eux débarquent dans Chut, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Il te reste une flamme calée au fond de toi.
Tu effaceras les larmes qui mouillent tes yeux parfois. Tant qu'il te reste un rire vivant sur ton visage, tu pourras toujours écrire des milliers d'autres pages.
Et si tu sens que le jour vient, que tu peux revivre demain,
tu seras la seule étoile
les yeux fermés. Tant qu'il te reste l'amour que tu reçois à volonté.
C'est de l'espoir tous les jours que tu voudras redonner.
Et si tu sens que le jour vient, que tu peux revenir.
On veillera sur toi.
Rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Plus belle la vie, encore plus belle. Et on a beaucoup de chance parce qu'elle est de retour. Enfin, je crois que c'est les fans la réclamaient corps et à cri. Je crois ce couple emblématique de Plus belle la vie, Emma et Baptiste, de retour. Pauline Bression, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ça y est, t'as retrouvé la famille.
Exactement, ça y est. Ça fait tout drôle. On a l'impression qu'on s'est quitté hier et en même temps il y a 15 ans. Alors que bon, non, hein, ça faisait que 2 ans et demi, tout va bien. Mais c'est assez fou.
Alors ça y est, t'as découvert un nouveau décor, t'as découvert la nouvelle place à Allo. Il y a plein de nouvelles choses, tu as vu, hein, ça a bougé.
Ouais, ça a bien bougé. Après, pour être totalement honnête, à la création de la resérie du Encore plus belle, j'avais été voir les décors quand même. Il y avait un jour où j'étais à Marseille, j'avais demandé si je pouvais visiter parce que bon, je suis quand même une petite curieuse. Donc j'avais vu tout ça, mais là c'était génial d'en être et de tourner dedans.
Alors, c'est de grands retours, ça y est. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a particulièrement touché, que depuis que la série est de retour le 8 janvier, les gens ne font que réclamer Emma et Baptiste sur les réseaux et la prod les a enfin écoutés, encore une fois?
Bah franchement, il n'y a pas plus flatteur, c'est génial. C'est quand même génial d'avoir incarné le même personnage pendant 7-8 ans, notamment en binôme, en famille, et que le public nous redemande en famille. C'est honnêtement très touchant.
C'était la condition de vous faire revenir en famille. Il fallait que Brian soit d'accord, il fallait que tout le monde soit ok, parce que je sais que c'était un peu ta condition, tu avais vraiment envie de revenir en famille, pas toute seule.
Bah oui, je voulais que ça ait un sens, on est partis ensemble, bon même si moi j'étais pas de la toute fin, mais dans l'idée on était le couple, on est partis ensemble, ça avait plus de sens, et pour lui et pour moi, hein, parce que ce n'était pas que moi, hein. Lui aussi a mis la même condition, et puis de toute façon je crois qu'ils ne se sont même pas posé la question de nous faire revenir séparément, hein. Enfin on a dit ça un peu en rigolant, même si on le pensait à voix haute, mais je pense que pour la prod et l'écriture c'était évident de nous faire revenir ensemble aussi.
Alors le petit Mathis, je crois, a changé par contre.
Eh bien malheureusement, oui. Alors malheureusement, je dis ça, le nouveau petit Mathis, c'est absolument merveilleux aussi. Hein. Et je dis juste malheureusement parce que je sais que pour les spectateurs, c'est toujours un peu perturbant de voir un personnage changer, même si c'est un enfant, hein, c'est pareil qu'un adulte. Donc,
surtout qu'il était bien marqué, franchement, on l'adorait, il était tellement mignon ce petit.
Bah oui, c'était un vrai petit mélange de nous deux, c'était une vraie petite bombe d'énergie. Bon, après voilà, il y a mille facteurs hein, pour faire tourner des enfants. C'est pas forcément toujours facile, donc la production, les familles ont leur raison à eux. Et
surtout, le type ne peut ne plus vouloir, ne plus s'amuser en faisant ça. Hein. Il y a aussi ces paramètres-là à prendre en compte quand même.
Exactement, et en fait notre petit Mathis, déjà sur la fin de Plus Belle, il s'amusait un petit peu moins. Hein. Il comprenait que s'il disait pas ce qu'il fallait, l'attention allait être sur lui, ça allait être un peu plus compliqué. Donc en tout cas, on est très heureux et on l'a évidemment accueilli très chaleureusement, notre nouveau Mathis, notre nouveau petit bout.
Brian, évidemment, est de retour aussi. Ce couple emblématique qui nous manquait tant est de retour sur vos écrans. Les retrouvailles avec Brian, j'imagine aussi.
Évidemment. Alors, on n'a pas attendu de tourner ensemble pour se retrouver.
Mais... ça, je me doute.
Mais on était hyper contents pour la petite anecdote. Nos toutes premières scènes, là, de la reprise, c'était trois séquences, uniquement tous les deux, que d'engueulades. Et honnêtement, on va pas se mentir, c'était hyper bon. Lui comme moi, on était très contents parce que... parce que c'était Emma et Baptiste, quoi, et qu'on a eu tellement de scènes comme ça. C'était un réel plaisir de retourner tous les deux. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un réel plaisir de retourner avec Brian.
C'est un retour tonitruant. En quelques mots, ça démarre comment, sans trop nous en dire?
Bah, on découvre un petit peu où étaient et le pourquoi ces personnages n'étaient plus là. Et même si on s'en doutait, hein, ils étaient partis refaire leur vie ailleurs suite aux effondrements. Mais là, on découvre effectivement qu'ils étaient bel et bien en Australie, ce pays que Emma a tant de fois visité pour le travail. Et là, même si c'est pas le même travail, elle a effectivement retrouvé du travail en Australie. Après les effondrements, elle préférait prendre cette opportunité-là plutôt que de rester au Mistral où c'était un petit peu moins rigolo. Sauf que, et c'est là où tout va commencer à être un petit peu moins rose. En revenant, on s'aperçoit que Emma est très épanouie en Australie, mais Baptiste l'est beaucoup moins.
Et donc, du coup, à Marseille, c'est Emma qui va l'être peut-être un peu moins et Baptiste beaucoup plus.
Pour Emma, le retour à Marseille, c'est on ne peut plus organiser, c'est-à-dire c'est les retours pour les fêtes de fin d'année, pour passer Noël en famille, pour voir Thomas, Riva, voilà, la famille. Alors que Baptiste, c'est beaucoup plus profond, c'est...
contresté.
Baptiste, c'est un peu plus profond, c'est vraiment, génial, mon pays, ma langue, pourquoi est-ce qu'on resterait pas? C'est quand même sympa d'être près de la famille. Et puis, évidemment, il y aura d'autres rebondissements, parce qu'on va s'apercevoir qu'au-delà du couple qui sont un peu en désaccord là-dessus, ils vont réaliser que chez Thomas et Riva, tout ne va pas forcément hyper bien.
Ça fait quelques mois que ça dure.
Exactement, et puis des petites surprises dans le couple Emma-Baptiste.
Qu'on va laisser évidemment découvrir au public, on peut le dire. Malgré tout, effectivement, c'est un des plus beaux cadeaux de Noël que vous pouvez nous faire dans Plus belle la vie, de revenir tous les deux. J'avoue, parce que on va pas bouder notre plaisir évidemment de vous retrouver. Et il est vrai que entre les deux, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Alors toi, dans ta vie personnelle, mais il y a eu aussi plein de projets qui se sont déroulés. On t'a vu dans des téléfilms, on t'a vu dans plein de choses. Ça fait du bien aussi de s'évader quand même du personnage d'Emma, même si on va la retrouver quand même avec ce même caractère, toujours. Aussi solaire, mais aussi avec ses côtés sombres parfois. C'est un personnage complexe que t'as interprété durant quelques années.
Oui, totalement. Alors là, effectivement, on retrouvera pas toutes les facettes d'Emma en une intrigue, parce que c'est complexe, hein, un personnage. On voit les hauts, les bas, mais on la retrouve en tout cas très en forme, très tonitruante avec Baptiste. Donc c'est quand même encore la femme forte, évidemment sensible, mais forte.
Vous êtes là pour un petit moment ?
Oui, un petit moment.
Bon, voilà, déjà ça suffit à notre bonheur.
Histoire de passer des fêtes de Noël tous ensemble.
Exactement. Alors je sais qu'il y a des beaux projets qui t'arrivent aussi à côté. On te verra dans Les Ailes Collées aussi, de Thierry Binisti. Très beau téléfilm pour France 2 qui a fait grande sensation d'ailleurs au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle en septembre dernier.
Oui, totalement. Je crois que le film a plutôt été bien accueilli. Et nous, en tout cas, on était très heureux de ce film. C'est un téléfilm qui est très nécessaire aujourd'hui, même s'il se passe dans les années 80 et 2000. Il est totalement nécessaire encore aujourd'hui en 2024. Donc j'étais très heureuse d'avoir ma petite participation à ce téléfilm aux côtés de Thierry Binisti et aux côtés notamment de Roby Skinazi. Ça s'est très bien passé, donc pour 2025, voilà, on commence par ça. On continue encore et toujours avec quelques dates de tournée de la pièce Smile en noir et blanc. Ça, c'est un plaisir d'être un petit peu sur les routes pour la jouer ailleurs qu'à Paris et à Avignon. Et puis la suite, on attend des petites réponses, mais rien d'officiel.
Et Plus belle la vie, encore plus belle, du lundi au vendredi à 14h sur TF1. J'imagine que depuis que t'as annoncé ton retour sur les réseaux en septembre quand vous avez repris le tournage, j'imagine que t'as commencé à être inondé de messages de fans.
Oh, inondé, c'est un grand mot, c'est gentil de le penser et d'être positif avec ça, mais en tout cas j'ai reçu effectivement des petits témoignages de gens qui...
Moi je vois les commentaires sur les réseaux, je te le dis.
En tout cas je suis très heureuse que ce soit positif, enfin que les réactions soient positives par rapport à notre retour bien sûr.
Allez, on va vous suivre évidemment dans vos aventures. On va passer Noël avec vous pour notre plus grand bonheur. Merci Pauline d'avoir été avec nous. Et puis tu le sais, tu viens quand tu veux, t'es chez toi. À très vite.
Merci beaucoup. À très vite.
Ah, oui, à mon petit kangourou.
Never breaks. We keep in our breath. White words and nice lights to keep hope in the night when they.
Géant.
Eh ouais.
Regardez ça.
Vu qu'on est arrivé à Canberra, il a poussé d'un coup.
C'est bien la visio, mais c'est mieux de se voir en vrai, non?
Et surtout qu'en visio, il n'y a pas le gâteau au chocolat de Papy Gabriel. Comment?
Et toi, t'embrasses pas ton père?
Ah, quand même, c'est quand même pour le con.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à nos meilleures années, nouvelle série événement qui débarque samedi à 20h25 sur M6 dans la case de scène de ménage. Eh bien, nous aurons désormais une fiction inédite qui va retracer le parcours d'une famille sur trois générations avec Yann Guazampi qui est le créateur de la série qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Yann.
Bonjour Alain.
Mais quelle bonne idée, franchement, de voir l'évolution de cette famille au fur et à mesure des années, des sujets tabous qu'on peut évoquer dans les sociétés des années 70, 90, d'aujourd'hui. C'est génial. Qui c'est qui a eu l'idée de ça? C'est toi?
Oui, c'est moi qui ai eu l'idée. Pour la petite histoire, déjeuner avec mes beaux-parents et ma belle-mère me confiait que... Donc elle était mariée, était jeune mariée dans les années 60, et elle me confiait qu'elle avait demandé à son mari de se mettre à fumer parce que ça faisait viril et ça faisait homme de se mettre à fumer. Et d'entendre ça aujourd'hui, dans les années actuelles, il y a un décalage énorme qui est forcément source de comédie. Et je me suis dit, il y a un truc à creuser justement sur l'évolution de la société et aussi sur l'héritage qu'on peut avoir. C'est ce qu'on essaie aussi de raconter dans la série, l'héritage, l'évolution de la société, mais aussi l'héritage de ce que nous transmettent les générations d'avant. Et c'est ça qui nous fait rire dans les formats qu'on connaît bien ici chez Cabot, comme scène de ménage ou en famille, qui sont des petites scénettes et on s'amuse comme ça à raconter, à faire des comparatifs et justement à illustrer cette évolution. Évolution ou pas d'ailleurs, il y a des choses qui restent immuables et qui n'ont pas évolué d'ailleurs.
Et c'est ça qu'on va se rendre compte aussi dans cette série, c'est ça qui est intéressant puisqu'on va y suivre en fait le personnage pivot un petit peu au milieu qui est celui de Françoise qu'on va suivre ado dans les années 70, qu'on va retrouver maman dans les années 90 et qu'on va retrouver grand-mère aujourd'hui et qu'on va voir évoluer au fil du temps avec son fils aussi. Donc c'est vraiment chouette de voir toute cette famille évoluer avec David Salle, Jean-François Quéré, Nadia Rose qui sera notre invitée d'ailleurs lundi prochain. Et il y a toute cette évolution autour du personnage de Françoise qui est un peu le premier pivot en fait hein, du rassemblage de ces trois générations.
Exactement, et l'idée c'était aussi de regarder ou d'effleurer du doigt de manière évidemment toujours sous le sceau de la comédie, l'évolution de la place de la femme dans la société et l'évolution du modèle patriarcal qui a été un modèle incontesté pendant des années et qui est source d'énormément de frustration, d'injustice, d'inégalité, de tout ce qu'on veut, et qui est en train de se fissurer pour le plus grand bonheur de plein de femmes, certainement pas suffisamment rapidement aussi. Mais voilà, c'était ça qu'on voulait tracer. Et l'idée aussi était de se focaliser sur des périodes, des moments charnières de la société. Par exemple, on prend la première période, comme tu l'as dit, c'est début des années 70. En fait, mai 68 vient d'arriver. Ça a été un bouleversement dans la société, à la fois sur le plan sociétal, mais sur le plan culturel aussi. Donc c'est intéressant. La deuxième, c'est tout début des années 90, c'est après la chute du mur de Berlin, où là, il y a des verrous qui ont explosé, il y a eu les débuts de la mondialisation, et puis on a la dernière période qui est de nos jours, qui est une période également où il y a une révolution importante, qui est
écologique,
la révolution
notamment. Numérique, à travers les enfants.
Et écologique, avec une prise de conscience d'une nouvelle génération, qui est la génération qui suit, génération des ados, jeunes adultes d'aujourd'hui, qui sont conscients des bêtises qu'ont pu faire leurs parents, grands-parents, de manière un peu inconsciente, des années auparavant.
Alors, on va suivre le destin de cette famille. Jean-François Quéré a une petite coiffure qui lui va à ravir, mais il est tellement drôle.
Oui.
Et dans les années 90, heureusement que la moustache n'était pas plus étroite hein, quand même. Hein.
C'est sûr. On a fait attention. Non, mais Jean-François, ouais, super comédien. Le tournage a été idyllique. On a bien rigolé sur le plateau. J'espère que ça se sentira aussi au visionnage et que les spectateurs partageront ça. Évidemment, il y a toujours un moment d'adaptation et pour pouvoir comprendre le concept, s'attacher à l'humour et s'attacher surtout au personnage. Ça met toujours un peu de temps. Hein. Ça, c'est pas... comme ça de manière instantanée, mais on a la chance d'avoir des comédiens vraiment qui sont des Rolls-Royce de la comédie.
Ah bah ils donnent tout.
Pour la course, c'est un jeu. Ouais, mais vraiment, et puis le genre, c'est vraiment un genre particulier, on est presque proche du, en fait, c'est presque proche du théâtre filmé, ou proche de la sitcom, comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a un jeu légèrement un peu, avec un thermostat un peu élevé, c'est pas un jeu naturaliste, et ça déploie une grosse énergie, et ils ont tous été formidables, Marie Lanchasse, Agnès Nigura, qui donc fait Françoise, dans les années 80 et aujourd'hui.
Loïc Legendre.
Loïc est fantastique. Fantastique de proposition et de générosité. Toujours pareil, on reçoit une quantité de textes. Il y a une quinzaine d'auteurs qui ont travaillé sur la série. Et puis parfois, il y a des chutes qui sont moins puissantes. Et Loïc, il a ce truc incroyable de proposer des impros, proposer une nouvelle chute. Et en général, on la garde au montage parce que c'est super. C'était pas écrit, mais c'est génial. Donc c'est quand même hyper précieux. D'avoir de pouvoir travailler avec des gens aussi talentueux.
Et puis vous reconnaîtrez peut-être le personnage de Christophe Adot joué par Tristan Gérame, qui est un habitué de la série, qui a été un habitué de la série Demain nous appartient aussi, qu'on va avoir grand plaisir en tout cas à retrouver dans cette série qu'il faut dire qui a démarré en tournage il y a 3 ans et qu'on oui. découvre enfin. Donc il y a pas mal d'épisodes d'avance pour nourrir quelques samedis, on espère jusqu'au mois de juin en tout cas, pour découvrir cette série. Mais ça démarre samedi, moi je vous conseille, vous allez beaucoup rire et ça fait du bien en ce moment, on en a besoin.
Absolument, c'est vrai. J'espère que tout le monde, que ça va faire rire, au moins sourire, qui est le reflet de, finalement, de beaucoup de familles qui nous entourent et de familles de téléspectateurs rassemblablement.
Exactement. Merci Yann, en tout cas, d'avoir été avec nous. Daniel Rose sera notre invité lundi prochain pour continuer à en parler. Samedi 20h25, on découvre nos meilleures années sur M6. Merci beaucoup Yann, à bientôt.
À bientôt.
Oula, mais ça sent le gros caca ici.
Mais oui, ça sent le gros caca. Qui c'est qui a fait un gros caca?
Zozo qui a fait un gros... Bah non.
Bah pourtant ça sent.
Oh non. Non, t'as encore mis les couches lavables à laver avec notre linge.
Oh bah pas du tout, j'ai juste mis le linge. C'est toi qui as mis les couches avant dans la machine.
Bah oui, mais pour les laver seules.
Mais comment je peux savoir, moi, que t'avais mis des couches pleines dans la machine?
Mais parce que t'as des yeux, puis que tu les utilises, puis t'as un nez surtout.
Un nez, mais enfin toute la maison sans le caca.
Oui, bah si t'avais pas eu cette idée géniale d'acheter des couches lavables, recyclables.
Ah mais c'est pas moi, hein, c'est... Océane!
Allez, notre coup de cœur télé consacré au téléfilm Les Mystères du Clos Delila, nouveau téléfilm de la collection Les Mystères 2, produit par Sylvette Friedman notamment et Jules Boyer, avec ce coup-ci un nouveau mi-dôme incarné par Blandine Bellavoir et Fanny Cottençon qui est en ligne avec nous. Bonjour Fanny.
Et bonjour à vous.
Merci d'être avec nous, Fanny. Alors, on va enquêter, en tout cas, dans ce nouvel opus de cette collection sur une pianiste concertiste de renommée internationale qui va être retrouvée morte dans sa maison de campagne, le Clos des Lilas, une magnifique demeure. Et donc, du coup, c'est Anna, capitaine de gendarmerie, qui va se retrouver devant cette affaire, flanquée d'une mère légèrement envahissante et journaliste, qui plus est, ce qui va pas lui faciliter forcément la tâche. Quoique, on verra au fur et à mesure, c'est cette maman, Catherine, que vous incarnez en tout cas, Fanny.
Vous avez bien pitié, dites donc.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Catherine un petit peu?
Ben, Catherine, elle est effectivement un petit peu toxique par rapport à sa fille, en tout cas très envahissante. Elle est un peu femme enfant, quoi. Elle a du mal à être autonome complètement par rapport à sa fille. Elle est accrochée à sa fille. Et en fait, ça dure depuis l'enfance.
Et c'est ça qu'amène la comédie. Mine de rien dans ce duo.
Bah oui, bien sûr, parce que c'est délicieux, parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a un amour pas facile à assumer pour les deux d'ailleurs, parce qu'elles sont accrochées l'une à l'autre finalement au bout du compte, parce que la fille aussi finalement elle est accrochée elle aussi à sa mère.
Vous connaissiez toutes les deux avec Blandine ou pas?
Non, on se connaissait pas, on s'est régalé, c'était très très agréable de jouer avec elle, plus qu'agréable, c'était joyeux.
Bah, elle est géniale. Ouais. Et puis, il y a un super casting autour de vous. Pierre-Yves Tourny, oui. Julie Drey, Emmanuel Boisise, Aurélie Conaté, qui est géniale aussi. Marie Rousseau, qui joue justement le rôle de Mylène. Il y a vraiment un super cast, hein, encore une fois.
Oui, et puis beaucoup de filles. Hein. C'est chouette,
bah oui,
ça.
C'est vrai. On va quand même citer Pierre-Yves Tourny et Christophe Gendreau, du coup, pour équilibrer un petit peu.
Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est une fois n'est pas coutume, c'est bien.
Non, mais c'est très sympa en tout cas. Et puis une belle enquête qu'on va voir se décortiquer au fur et à mesure, parce que les mystères 2, ça recèle plein de secrets. Ça nous emmène sur des fausses pistes. C'est ça que j'aime bien aussi. Jusqu'au moment, évidemment, où on découvre l'identité, en tout cas, de celui qui a commis ce méfait, qui a commis ce meurtre. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit toute cette enquête en tout cas.
Oui, oui, absolument.
Fanny, est-ce que justement pour endosser ce rôle de journaliste, est-ce que vous avez échangé justement avec peut-être certains pour savoir un peu comment faire pour fouiner, pour essayer de détecter un peu des scoops?
Oh bah oui, alors en tant que comédienne, je vous connais, vous les journalistes, hein, quand même. Ouais, ouais, non, mais c'est ce tournage était vraiment très joyeux parce que d'abord des comédies comme ça, on n'en a pas tant que ça à jouer. Moi, j'aime bien ce genre.
Parce que là, on est vraiment dans de la comédie policière. C'est ça aussi qui change un peu. Ouais. Voilà, de tous les temps, on n'est pas sur une enquête classique. Il y a vraiment beaucoup de scènes de comédie. Puis on voit un peu l'intérieur justement de ce duo, Anna et Catherine. C'est ça qui est chouette.
Absolument.
Qu'est-ce qui vous a plu au premier abord, Fanny, quand vous avez lu le scénario? Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Bah moi, c'était les relations mère-fille qui étaient marrant et charmant à jouer, mêlées à la trique policière. Le portrait de cette femme qui a souffert finalement de l'abandon de son mari et qui, pour ces raisons-là, a eu du mal à grandir. Donc c'était charmant à faire, quoi, à construire.
Moi, il y a vraiment des scènes qui m'ont fait mourir de rire, hein, entre vous deux, hein, parce que c'est vrai qu'elle fouine son nez partout, hein, Catherine, hein, et même quand Anna ne l'attend pas.
Oui, Catherine, elle est un peu hors sol, quoi. Elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Elle a pas trop les codes de pas grand-chose, en fait. C'est vrai.
Pour le coup, Sylvette Friedman, la productrice, avait fait un film qui s'appelait Les Mystères du Bois-Galant et avait eu une suite d'ailleurs, Les Mystères de l'École de Gendarmerie, avec le même duo, Olivier Sitruk et Sarah Mortensen. Est-ce que toutes les deux, en tout cas, avec Blandine, si on devait vous reconfier un peu une enquête mère-fille comme ça, et si on devait vous retrouver sur un nouvel opus peut-être d'ici 4-5 ans, est-ce que vous iriez, en tout cas, sans hésiter, toutes les deux?
Oh bah oui, je pense que sans hésiter, on serait ravis de se retrouver, franchement. Je dis pas que c'est rare d'avoir autant de complicité avec son partenaire, mais c'est quand même, en tout cas, c'est vraiment génial, quoi. Ouais.
Fanny, on vous voit encore avec Didier Bénureau dans Scène de ménage, mais vous avez arrêté les tournages pour votre part en juin pour vous consacrer à d'autres projets. Et donc cette saison, c'est la dernière où on découvre en tout cas les aventures de ce couple qu'on aime tant et auquel on s'est attaché maintenant depuis quelques années, mine de rien.
Eh ben oui, c'est vrai. Ça fait 2 ans. Oui, oui, bah moi j'aimais bien, j'ai adoré faire ça. Hein. J'ai adoré tourner les scènes de ménage. Je me suis beaucoup, beaucoup amusée à faire ça. C'est un des exercices pas si faciles que ça. Ces plans fixes, c'est pas si simple, mais on a des auteurs qui écrivent bien, tout est bien travaillé à tous les niveaux, les décors, les costumes, tout ça. Donc je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'attention, de qualité dans ce programme. C'est pour ça qu'il perdure depuis si longtemps.
Mais oui, c'est clair. Vous aviez fait un petit peu le tour aussi du couple peut-être qui vous a donné envie peut-être d'arrêter.
Non, c'est pas souci, parce que c'est surtout Didier qui voulait arrêter parce qu'il avait son one man, donc voilà, c'est un peu sa décision et moi j'ai suivi, hein.
Ah oui.
Mais je regrette pas du tout d'avoir été dans cette aventure.
Bon, et puis on sait pas, peut-être qu'un jour à l'occasion d'un prime ou événementiel, vous pourriez peut-être retrouver vos deux rôles à tous les deux, vous retrouver avec Didier d'ici quelques mois, on sait pas, hein. On sait pas ce que la vie nous réserve.
Absolument.
Merci beaucoup Fanny, en tout cas, les mystères du Clos des Lilas, c'est samedi à 21h10 sur France 3, on ne le rate pas, c'est le nouvel opus, c'est le 9e, je crois, hein, de la série, ou le 10e, on n'est pas loin du 10e, en tout cas, de la série Les Mystères 2 à découvrir sur France 3, produite par Sylvette Friedman et Jules Boyer. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci beaucoup à vous.
Ouais, il s'est réveillé et il l'a étouffé.
Possible.
Lieutenant ?
Oh là là. C'est triste, hein.
Mais maman, tu peux pas être là.
Sors. J'étais tellement fan de cette pianiste.
C'est trop tard pour un autographe. Allez.
Dis-moi. Ton adjoint, là, il est canon. Il est célibataire.
Non, maman, c'est vraiment pas le moment d'essayer de me caser. Allez, vous aurez mon rapport en fin de journée.
Okay. Ah, dites-moi, est-ce que vous pouvez déterminer si la victime dormait quand elle a été étouffée ou bien si elle était réveillée?
Pardon.
Ça change tout, hein.
Effectivement, mais c'est impossible à dire, là, tout de suite. Voilà.
Oh là là, bon, il va falloir attendre.
Allez, on y va.
Oui.
Merci.
Allez, nous l'avions rencontré, c'était en avril dernier sur le tournage de Commandant Saint-Barth. Roxane Brett vient nous parler de son personnage dans la série, puisque jeudi, ça sera l'ultime soirée déjà de cette première saison. Allez, on continue à présenter les personnages de votre nouvelle série Commandant Saint-Barth avec Roxane Brett qui nous a rejoint. Bonjour Roxane.
Bonjour.
Ça reste un beau souvenir entre nous. On s'était vu pour Elle, les filles du Plessis qui avait été primée au Festival de Luchon d'ailleurs. Un très beau téléfilm de Bénédicte Delmas à l'époque. Un film de femme justement. Et là, on te retrouve dans le rôle de Charlie. Explique-nous qui est Charlie justement dans Commandant Saint-Barth, ma chère Roxane.
Merci, et ça me fait très plaisir de vous retrouver aussi. Charlie Coaster, c'est la chef de la police scientifique. Elle est hyper loufoque, excentrique, et elle est très obsessionnelle. Et ses obsessions vont la mener à faire parfois des enquêtes un petit peu parallèles et aider le commandant Saint-Barth à résoudre les enquêtes. Elle est très sérieuse, très rigoureuse et c'est souvent grâce à sa rigueur qu'elle résout les
choses. Malgré le petit look que vous verrez quand la série sera diffusée, évidemment, puisqu'on ne va pas défleurer quoi que ce soit, mais tu arbores un petit look particulier pour jouer Charlie.
Absolument. Et j'ai des looks très colorés, très, très fous. Et petit spoiler, j'ai les cheveux roses en partie.
Exactement. Et puis, vous verrez qu'il y a aussi un petit grain de voix sympathique que vous découvrirez au moment de la diffusion. On ne va pas te demander de le faire dès maintenant. Quand même, on va attendre, Roxane. Ce tournage en Guadeloupe, comment tu as vécu justement ces 3 mois assez loin de la métropole, malgré tout, avec peut-être quelques allers-retours. Mais ce tournage en Guadeloupe, qu'est-ce que tu en garderas comme souvenir?
Que la Guadeloupe c'est absolument magnifique. J'avoue que moi j'avais quasiment jamais pris l'avion de ma vie, donc c'était un de mes premiers voyages. Donc complètement dépaysant. Je suis tombée vraiment amoureuse des gens ici, des paysages, de tout. Enfin vraiment, je pourrais vivre ici.
T'as eu le temps de visiter un petit peu?
Oui.
Alors justement, est-ce que pour nos auditeurs, oui, tu as un site particulier qui t'a fait waouh, un coup de cœur que t'aimerais leur partager là?
Alors moi j'aime beaucoup surfer et donc j'ai un peu surfé au Helleu et à Port-Louis et c'était magnifique. Mais la Soufrière, vraiment, ça reste vraiment l'excursion que j'ai préférée. C'était de monter en haut de la Soufrière, qui est un volcan.
C'était dégagé quand t'es montée?
À la fin on était vraiment dans les nuages, mais en fait juste le fait de monter là-haut et les paysages sur la route en fait étaient dingues.
Parce que les Guadeloupéens que vous croisez ici vous diront que la Soufrière se dégage, je crois c'est 20 jours par an, donc ceux qui ont la chance effectivement de la voir en totalité, c'est une chance.
C'est très rare, ouais, c'est très très rare.
Bon, est-ce qu'il y a une anecdote particulière, un moment drôle qui s'est passé? Parce que j'imagine qu'avec Florent, c'est un tournage qui doit être assez joyeux quand même, et vous avez dû partager quelques fous rires.
Moi, ce qui s'est passé en arrivant en Guadeloupe le premier soir, j'ai mangé du poulpe et j'ai ma bouche qui a triplé de volume. Et
t'as fait une allergie?
J'ai fait une allergie, c'était mon petit cadeau de bienvenue en Guadeloupe. Mais tout est tellement parfait.
Du coup, Florent te fait le poulpe depuis. C'est un peu ça. Bon, en tout cas, on va rire à la fois avec ce personnage de Charlie. On est vraiment dans une comédie policière, c'est ça qui est vraiment sympathique. Et donc, dernière question que j'ai posée à tous les autres aussi, s'il y a une saison 2, Charlie a envie de revenir?
Bien sûr, elle a encore beaucoup d'enquêtes à mener.
Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas Roxane d'avoir passé ces quelques instants avec nous. Je sais que la prochaine scène t'appelle, donc merci en tout cas.
Ben, merci beaucoup à vous.
Qu'est-ce qu'on a?
Margot Rimmel, 30 ans.
Mitaine en résiste, cheveux blonds platine, plein de crucifix.
Bah c'est Madonna.
Pardon?
Elle est déguisée en Madonna.
Qu'est-ce que c'est que ce show là?
Comme d'hab, je me mets dans la peau de la victime, Georges.
Bah, elle était en Madonna.
Oui, mais sauf que là je me mets dans les escarpins de celle que je cherche, c'est-à-dire Dalida.
Je suis innocente.
Parole, parole.
On a un peu l'impression que vous nous baratinez.
Peut-être que l'assassin n'a pas voulu voler la perle de Margot, mais simplement la faire disparaître.
Si on la retrouve, on pourra peut-être remonter jusqu'au cœur.
Si je fais ça, c'est que tout va bien. Si je fais ça, c'est que je veux jouer à Perfeccido. Ah, c'est un chien!
Vous avez peur des chiens ?
Je suis allergique aux poils de chiens, surtout les petits.
Allez, on exclut podcast aujourd'hui l'équipe de Escort Boy que nous avions reçue au printemps dernier. Eh bien, nous allons vous rediffuser ce passage à l'occasion de la diffusion ce soir sur TF1 de la série à 22h10, juste après Cat Size. Vous découvrirez les trois premiers épisodes de Escort Boy. Voici donc le retour sur notre antenne de Ruben Alves, Caterina Murino, Simon Herlaché et Zaya Dehar.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et on va parler aujourd'hui de la série Escort Boy que vous pouvez découvrir depuis fin décembre sur Prime Video. Et on va avoir l'occasion aujourd'hui d'en parler avec Caterina Murino, avec également Simon Herlaché et Zaya Dehar qui vont nous rejoindre dans un instant. Mais avant, un réalisateur habitué de notre émission qu'on a grand plaisir à recevoir encore une fois, Ruben Alves. Bonjour.
Salut.
Tu es à la tête de cette série irrévérencieuse, avec de l'émotion, avec du rire, comme tu sais si bien le faire, comme on a pu le voir dans les films Miss ou encore La Cage Dorée. On ressent bien ta patte encore une fois là.
Eh bien, super, moi je sais pas, hein. Je la connais pas vraiment ma patte, mais c'est vrai qu'on me le dit, donc je vous crois. Dès qu'il y a en fait sujet à parler de l'humain avec... les travers, avec bienveillance, mais là en l'occurrence avec ce sujet-là de l'escorting de ces quatre garçons en galère, amateurs. Donc moi c'est ça qui m'intéressait beaucoup, de dire qu'est-ce qu'on fait quand on est des jeunes hommes en passe de devenir des hommes. Là il y a quelque chose d'intéressant sur le désir féminin, redistribuer les cartes parce que du coup c'est inversé, on a tellement l'habitude que ce soit dans l'autre sens. Et là ce qui m'intéressait vraiment c'est de me dire ok, ces garçons là vont être au service du désir de ces femmes-là, diverses et variées. Et ça,
c'est un milieu totalement différent aussi.
Oui, tout à fait. Faire un doux mélange, parce que vraiment, j'avais pas envie de tomber dans le cliché de la femme avec beaucoup d'argent, plus âgée et qui commande le jeune et faible. Là, c'est vraiment, il y a vraiment de tout. Et ce qui m'intéressait surtout, c'est que ce n'est pas que du sexe. Bien au contraire, l'escorting.
Non, parce que on part quand même de l'histoire de Ben, qui lui est acteur, raté à 16 heures d'ailleurs, qui court de rôle en rôle, de casting en casting, interprété avec brio par Guillaume Labbé, qui apprend la mort de son père et donc revient à la ferme et décide d'y rester, une ferme qui élève des ruches et qui fait du miel. Et donc c'est sa petite sœur et puis un employé, Mathias, qui est incarné par Simon Herlaché, qui tient la baraque, mais il va s'apercevoir qu'on n'élève pas que du miel là-dedans et va se trouver embarqué en tout cas dans cette histoire d'escorte. Et en plus, ce qui est drôle, et c'est là que c'est intelligent ce que tu as fait, ces quatre garçons, ils sont menés totalement par le bout du nez par une ado de 17 ans quand même, qui est interprétée avec brio encore une fois par Marisol Fertard, qui est géniale quoi.
Oui, parce qu'encore une fois, la femme au centre, c'est-à-dire cette jeune fille 17 ans qui d'un coup devient la mère maquerelle, la mac de ces quatre gars, je trouvais ça très très chouette.
D'y penser, ça me refait rire, toi.
Et oui, parce qu'au final, moi j'aime bien l'idée que c'est pas une question d'âge, c'est pas une question, la maturité, c'est ce que tu traverses dans ta vie. Là, ils sont orphelins, c'est dur, mais justement, ça crée une carapace, ce personnage de 17 ans qui prend en main tout ça, et ces garçons qui sont avec, il y a la morale qui rentre en jeu, il y a les doutes, il y en a un des quatre qui est marié, donc du coup au début il dit c'est impossible, mais au final la femme a dit ben vas-y maintenant, parce que ça peut redynamiser notre couple.
Nadia Rose qui l'interprète, elle est incroyable aussi.
Il y a beaucoup de choses en fait dans Escort Boys qui m'intéressaient en fait vraiment sur les parcours de jeunes garçons, mais aussi d'un gars qui est marié avec un enfant, d'un gars qui est dans l'incapacité d'aimer parce qu'il est rentré tellement dans un truc de technique, justement, parce qu'il est déjà escorte depuis un moment, qui du coup il se perd un peu, il sait pas faire l'amour en fait. Et un autre qui a sa morale, qui revient, qui dit mais c'est pas possible, je suis pas une prostituée. Mais et en fait de découvrir au fur et à mesure qu'en fait l'escorting ce n'est pas que donner son corps pour du plaisir charnel, mais c'est beaucoup plus que ça. Et ben ils vont apprendre beaucoup de choses. Et moi tout ça
sur eux-mêmes aussi.
Sur eux-mêmes, bien sûr. Et moi tout ça voilà, c'est ce mélange là, c'est tout ce qu'il y avait à dire qui m'intéressait. Et après aller chercher des guests, un casting féminin pour venir faire des clins d'œil et défendre aussi une idée parfois profonde qui je pense par exemple à Pascal Arbiot, ce qu'elle vient défendre dans son personnage et pas évident. Moi je sais que mes productrices sont des choses qu'elles ont vécues, ça, cette espèce de un peu bashing de l'homme sur la femme au travail. Il y a un côté devoir se prouver, défendre la maternité, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère. Tout ça, c'est des choses qui sont réelles en fait et qui sont intéressantes à traiter.
La production qui était un peu un monde d'hommes change, hein, change de visage totalement d'ailleurs ces 10 dernières années. Et Myriam Garbi, qui est une des productrices d'ailleurs qu'on aime beaucoup et qu'on aime son travail aussi, est une des figures un peu de proue aujourd'hui de la production en France et qui produit d'ailleurs de nombreux films et séries. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'elle t'a accompagnée, que ce soit deux femmes qui t'accompagnent aussi dans ce projet, quoi.
Oui, mais c'était vraiment ça. En plus, quand elle cherchait un réalisateur justement pour ce projet, son voix, elle dit mais on pense vraiment avec tes deux films, on voit la sensibilité que du coup tu mets toujours au centre beaucoup la femme ou le féminin. Parce que dans Miss, c'était le féminin aussi, mais c'était pas par un garçon, mais du coup, le centre, c'était quand même le féminin, la féminité. Et voilà, et c'est vrai que la sensibilité de deux jeunes productrices femmes, à certains moments, ça a fait la différence sur certaines décisions, certaines façons de penser. Et oui, vraiment, et ça change, et tant mieux.
La liste des guests est improbable, hein.
Ah oui.
En 6 épisodes, c'est juste dingue. Carole Bouquet, Bayareas, et j'en passe. Et alors, Kelly Rutherford, quand même. Ouais. Mais comment t'as fait?
Eh ben, alors vraiment, Kelly Rutherford, c'est un pur hasard, parce que je l'ai rencontré à Paris à l'heure d'un vernissage. Donc, j'étais en train de regarder un tableau, et je me retourne, et je me dis, mais je la connais. Et j'ai commencé à lui parler.
T'as cru à Melrose Place, d'un coup.
Ben oui. Mais d'un coup, j'étais à Los Angeles, et je la regarde, et je dis, mais, et comme j'étais en plein casting, enfin en train de penser à des, et il me fallait une businesswoman américaine pour parler de cette satire, enfin c'était un peu une satire de parler de cette situation un petit peu ubuesque en train de se passer sur les applications de consentement aujourd'hui à Los Angeles beaucoup. Et je lui dis mais ça pourrait être génial et je lui en parle et je rentre pas dans les détails mais je lui dis mais je fais une série mais je cherche un clin d'œil d'une actrice américaine mais je peux vous envoyer quelque chose. Elle me dit oui. Alors je lui envoie puis le lendemain elle me dit ok j'adore. Alors c'était aussi simple que ça, c'était incroyable. Et après voilà, de l'improbabilité, mais d'une Amanda Lear que je connais qui était dans Miss, Rossi De Palma qui sont des... Pour moi en fait, ce que j'aimais c'était la force de toutes ces femmes à des degrés complètement différents. Mais il y a quelque chose de très puissant dans chacune de ces femmes qui sont venues faire un clin d'œil dans... très connues ou beaucoup moins, hein. Il y en a qui sont émergentes que des actrices que je trouve formidables et que j'ai adoré mettre en lumière. Mais il y a une puissance en fait. Il y a quelque chose qui... Elles viennent défendre une idée et toujours avec une... il y a quelque chose de que je trouve très beau dans cette... façon de défendre ses idées. Quand j'écoute Zaya parler, je trouve qu'il y a une intelligence par rapport à son époque, par rapport à ce qu'elle défend, qui me touche beaucoup en fait. Et quand j'ai fait un interview croisé par exemple avec Carole Bouquet et Zaya, qu'on avait fait un interview pour Vanity Fair, et ben les deux qui quand même peuvent être diamétralement opposés sur le papier de monde et pas se sont retrouvés, en fait elle l'a regardé, Zaya dit à Carole mon film préféré c'est un film de Buñuel dans lequel vous êtes, et en fait tout ça, je trouve ça génial, en fait, les croisements, de se dire oui, mais en fait, on est des femmes, et on est peut-être toutes différentes, mais on a des choses en commun, et pas que, après, je mets pas que les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, évidemment, mais c'est l'humain, quoi, encore une fois. Mais je me suis éclaté, en fait, avec toutes ces actrices qui sont venues faire un clin d'œil, quoi.
On va poser la question à Katerina, justement, à Zaya, qui va nous rejoindre, et à Simon dans quelques instants. Cette question, ta série, elle a un seul défaut. Le goût de trop peu. 6 fois 45 minutes, c'est pas possible, Ruben. La suite, c'est quand?
6 fois 40. Bah, on m'avait dit du 30. J'ai dit non, je peux pas faire du 30. C'est du 40.
Il faut au moins 40 minutes.
Ben oui, bah, alors j'étais pas du 52 ou du 1h, c'est pas un drame, mais j'avais envie quand même d'avoir le temps de l'émotion. Même s'il y a des moments très légers, fun et tout, il y a quand même des moments qui vous, enfin, je pense, qui nous donnent à réfléchir. Et du coup, 40 pour moi, c'était le bon combo. Et c'est vrai que 6, bon. Mais alors, moi qui viens du cinéma, c'est un très 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 grand
4 heures de film.
C'est 4 heures, c'est 2 films. Et donc 2 films à faire un même timing qu'un film, j'ai envie de mourir. En fait, c'est très difficile. La série, c'est un autre délire quand même, hein. Bah oui, trop peu, mais c'est quand même beaucoup de travail. Je vais peut-être un peu déléguer, je sais pas. On en parle, c'est en construction, c'est en discussion, il n'y a rien de très officiel.
Mais en tout cas, la saison est ouverte. La fin de saison est ouverte.
Oui, ouverte, exactement, parce que c'est chouette. Après, ça n'amenait pas une saison 2. Moi, j'avais jamais pensé de me dire je continuerai, je ferai une saison 2. Pas du tout. Mais j'aime bien, moi, laisser comme ça. Puis j'aime bien les petites frustrations comme ça où tu fais, bah, c'est pas possible, tu nous laisses pas comme ça. Bah, si. Je vous laisse comme ça, réfléchissez, et puis on reste comme ça. J'aime bien cette idée-là. En l'occurrence, effectivement, il y a plein de possibilités pour une suite. Voilà. À voir.
J'ai un film au cinéma bientôt.
Mais en tout cas, oui, il y a le projet.
Dans les 2 ans qui viennent, je veux dire.
Voilà. Oui, il y a. Il y a deux projets. Alors, qu'est-ce qui va arriver d'abord? Qu'est-ce que. Voilà, il y en a un à l'étranger et un en France. Je sais pas, on va voir.
Bon, on reste connecté. Merci Ruben d'avoir été avec nous.
Keep it connected.
Allez, la bande-annonce Escort Boy, c'est sur Prime Video. Juste après, Simon Herlaché, Katerina Murino et Zaya Dehar nous rejoignent pour continuer à parler de cette super série que vous pouvez découvrir dès maintenant en ligne. Merci beaucoup.
Merci.
Tu repars quand?
Je vais prier pour votre papa. Je repars pas. Charlie, on va redémarrer ça ensemble.
Avec quel argent? C'est à toi d'assurer maintenant.
C'est du délire. C'est temporaire.
Yes! J'ai regardé les sites d'escorte. Ici, y a que dalle. Donc si on se professionnalise, on peut vraiment tout déchirer.
Et parce qu'il faut retirer le t-shirt en plus.
Ah putain. Rentre, faut qu'on assure, hein. On va pas se louper. Faut qu'on passe la vitesse supérieure.
On est en train de parler de prostitution.
On est toujours la pute de quelqu'un.
N'importe quoi, mais tu es un bébé, toi.
Je suis un bébé bien équipé.
Et on continue à parler de Escort Boy, votre série que vous avez découvert depuis fin décembre sur Prime Video. Et on a trois des acteurs qui sont avec nous. Et comme vous êtes en majorité, mesdames, je vais commencer par le monsieur Simon Herlaché, qui est un habitué de l'émission, presque un chroniqueur aujourd'hui. Bonjour mon cher Simon.
Salut tout le monde, c'est moi qui vais interviewer le film.
Exactement. Zaya Dehar qui est avec nous, bonjour Zaya.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, qui joue le rôle de Zaya, qui joue le rôle d'une cliente. Et puis toi, c'est Mathias, voilà, que je remette bien les personnages. Et puis Olga, Katerina Murino, qui est avec nous. Bonjour, Katerina.
Bonjour à vous tous.
Merci d'être là tous les trois. Qu'est-ce qui vous a plu en premier dans ce film, dans cette série plutôt, de Ruben Alves? Est-ce que vous connaissiez déjà son travail? Je pense pour certains d'entre vous, je pense à Miss, je pense également au film qu'il avait tourné au Portugal, qui avait fait un carton, La Cage Dorée, avec Barbara Cabrita. Qu'est-ce qui vous a plu en tout cas en premier dans ce projet? Qui c'est qui veut s'y coller en premier?
C'est Ruben Alves. C'est le... Vas-y, je te laisse.
C'est un conducteur à part entière.
Oui, c'est ça, c'est Ruben Alves. Moi, j'avais dit oui, même avant de lire le scénario. Pour moi, c'était évident, j'avais tellement envie de travailler avec Ruben Alves. Et j'étais tellement fan de son film Miss, parce que pour moi, c'est un film révolutionnaire et qui donne de l'espoir.
Exactement, on a dû le voir 3 ou 4 fois. On a adoré ce film. Pour toi, Simon?
Pareil, Ruben. Donc les filles, elles sont arrivées après. Nous, on était en amont pour créer le groupe. Et
Guillaume Labbé, ton pote Corentin Fila aussi.
Thibaut. Et donc du coup, nous, le pitch de départ, c'était un peu juste 4 boys dans la Camargue qui font l'escorting. C'était pas forcément excitant à la base, mais la rencontre avec Ruben, sa vision des choses et les scénars et la rencontre avec les gars. Ça a été vraiment un déclencheur de toute cette série et c'était vraiment un plaisir après.
Katerina?
Pareil, j'ai pas lu le scénario avant. En fait, c'était une période où j'avais beaucoup de tournages, donc j'avais pas vraiment le temps de lire. Et mon agent m'avait dit, bon, il faut qu'on donne une réponse, donc je réponds pour toi et c'est un oui, parce qu'on refuse pas quelque chose qui arrive de Ruben Alves. Quand j'ai lu le scénario, j'ai dit merde.
Pétrin, je me suis mis.
Oui, exactement. Mais après, bien sûr, le résultat est juste incroyable. Donc, je suis vraiment ravie. Et en plus, qui m'a donné vraiment un personnage tout entier. Il y a une vraie histoire. Il y a vraiment quelque chose à construire avec Olga. C'est qu'on a fait. Et à défendre, parce que c'est quand même le personnage, entre guillemets, le plus méchant. Mais surtout, c'est là qu'il y a une vraie histoire et pas seulement une cliente. Donc ça a été, je me rends compte, j'étais vraiment chanceuse d'avoir reçu une proposition pour jouer le rôle de Olga. Et contrairement, j'ai jamais vu Miss. Moi, j'ai pas encore vu Miss, mais j'ai vu plusieurs fois La Cage Dorée. Et je trouve qu'il y a cette côté léger, drôle et très très pénétrant dans les sentiments, dans l'histoire qu'il raconte Ruben, qui est vraiment typique à lui. C'est un peu comme le soleil en Portugal, en fait. Il est très très coloré, mais très profond en même temps. Donc je trouve qu'il a vraiment un univers incroyable et je pense que nous tous et tous les acteurs est vraiment, et en plus il faut dire un truc, Ruben c'est un excellent metteur en scène parce que c'est un excellent acteur et moi il m'aide énormément parce que il joue les scènes comme il voudrait qu'ils soient. Et donc, du moment que tu l'as en face, tu sais un peu plus comment arriver. Il n'y a pas seulement des mots qui t'expliquent quoi faire. Donc, c'est vraiment un incroyable metteur en scène.
Et oui, il sait faire. Et puis alors, il faut dire que ces quatre boys, quand même, ils sont menés de main de maître. Parce que je l'adore, par Marisol Fertard, qui joue le rôle de la petite sœur de Guillaume Labbé. Elle est incroyable, Marisol, et elle vous mène tous à la baguette.
Hein. Ouais, ouais, c'est vraiment une actrice incroyable. Elle est jolie, elle a tout poil. Elle est jolie, elle a du caractère, elle a du chien, elle a du... Moi, c'était vraiment une découverte, je la connaissais pas avant. Je l'ai vue un petit peu, elle a des petits passages aussi dans Chien de la Casse. Ouais, très très belle découverte.
Il faut oser quand même, hein. On est dans une série quand même relativement irrévérencieuse avec un sujet un peu tabou aujourd'hui, qui est la relation du sexe tarifé, mais dans l'autre sens. C'est ça qui est chouette, c'est que jamais Ruben bascule. C'est toujours bien bienveillant, c'est toujours bien fait. On essaie toujours de comprendre chaque personnage aussi, où il veut aller, pourquoi il vient faire appel à ces escortes-là. Et ça, c'est vraiment chouette de pouvoir suivre cette série, parce qu'il y a de l'émotion, il y a du rire, parce qu'on rit aussi quand même beaucoup sur le tournage. Ça a été le cas pour vous aussi un peu entre les scènes ou pas, Zaya?
Ah oui, on rit énormément avec Ruben, oui, c'était tellement agréable.
Simon?
Bah, nous on a créé une bande de potes de fous, donc c'est, pour nous c'était la colo, même encore aujourd'hui, tu vois, ça fait 2 ans qu'on s'est séparés un peu de ce tournage. Et ça reste, t'as toujours des brides, et on a tellement envie de retourner ensemble pour cette saison 2.
Cette maison Camargue là, c'est magnifique ça, au milieu des salons comme ça, c'est superbe.
Je pense qu'aussi le contexte, par exemple quand on tourne à Paris, il y a un truc qui est différent aussi, parce qu'on rentre chez soi le soir, et là le fait d'être dans la nature, la connexion avec la nature, la connexion de vivre ensemble, il y a un truc qui était tellement puissant, je sais pas, je pense que c'est l'ensemble des éléments qui fait qu'on s'est retrouvé dans un tournage qui était ouf, vraiment.
Mais ça m'étonne pas, en tout cas nous ça transpire et on passe vraiment un bon moment en regardant cette série. C'est sur Prime Video. Pour l'instant il y a 6 épisodes. Est-ce qu'on peut espérer, vous en tout cas, tous les trois, vous avez envie peut-être alors d'apparaître dans une suite toutes les deux, mais en tout cas pour toi Simon, Guillaume, Corentin, est-ce que vous avez tous envie d'y retourner s'il devait y avoir une suite?
Mais à 10 000%, on attend que ça nous. Nous déjà à la fin du tournage de la saison 1, on voulait faire déjà la saison 2, parce que je pense que c'est très rare de vivre des moments intenses sur les tournages et de vivre des connexions humaines qui sont, c'était pas superficiel, c'était vraiment dense entre nous. Quand tu vis ces choses-là, t'as envie, c'est comme une histoire d'amour. Quand t'as vécu une belle histoire d'amour, t'as envie de regoûter ce truc-là.
On avait envie d'être potes avec vous.
C'est vrai.
Oui, au-delà de la sexualité et tout ça, c'était vraiment la liaison, ce qui est l'énergie qui dégageait. On avait vraiment envie de faire partir de cette famille, en fait.
Ils n'ont pas été potes tout de suite, hein, en tout cas. Hein, Ben et Mathias, hein, ça a été...
Oui, mais on sent que quelque chose va se passer. On aimerait bien avoir une chambre et prendre les petits déjeuners ensemble et passer et nettoyer les chevaux et passer vraiment les journées avec eux. Et c'est vraiment ça que c'est la magie du cinéma, qui nous font cadeau. Et je pense que quand ça se passe tellement bien sur un tournage, toutes ces magies-là, on ressent toujours à l'écran.
Donc Olga pourrait être de retour dans une saison 2.
Ça, je sais pas s'ils vont développer ce rôle-là, et je sais pas s'ils vont de toute façon continuer avec une histoire. On aimerait bien, et je pense que tous les fans, ils attendent ça, donc on attend.
Zaya, pareil, t'aurais envie de peut-être faire revenir ton personnage s'il y avait une saison 2?
Ah oui, j'adorais tourner avec Ruben et j'adore cette série. Bien sûr que je serais ravie.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous, d'avoir terminé cette spéciale Escort Boy, et que vous pouvez donc aller voir sur Prime Video, 6 fois 45 minutes. Merci à tous les trois.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
Allez, dans un instant, leurs enfants, après eux, Ludovic et Zoran Boukherma, essayez d'El Halimi, sont nos invités. Alors surtout, ne bougez pas, notre coup de cœur ciné, c'est juste après ça.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux? Je les ai écoutés sûrement un peu trop. Et si j'avais fait la part des choses avant? On était nous-mêmes avec nos défauts, mais quand les autres s'en mêlent, ça rend parano. Dis-moi ce qu'il nous reste au milieu des fautes maintenant. Chacun reprend son chemin. Adieu, nous deux, on aurait pu tenir à deux sans eux. Adieu, nous deux, à deux sans eux. On était imparfaits mais on était beaux. Je me rappelle de la mer, le sel sur ta peau. Souvenirs en poussière sur les vidéos d'avant. Et non c'est plus pareil, y'a peut-être trop d'ego. Nos visages entachés par les mauvais mots. Les portraits ont changé, seuls sur les photos. Maintenant chacun reprend son chemin. Adieu, nous deux. On aurait pu tenir à deux sans eux.
Audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube
et notre page Facebook. Chute, on écoute la télé.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré au film Leurs enfants après eux qui sort mercredi dans les salles, adaptation du roman de Nicolas Mathieu réalisé par les deux frères Ludovic et Zoran Boukerma qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Je sais pas lequel est Ludovic, lequel est Zoran, mais en tout cas, il va falloir vous départager tous les deux. Bonjour.
Bonjour, moi c'est Zoran.
Voilà, Zoran, ok.
On a la même voix, on est jumeaux, ça va pas vous aider. Hein.
Bah non, mais c'est ça, c'est pour ça, c'est Ludovic, bonjour.
Bonjour, moi c'est Ludovic du coup, mais j'ai une voix très similaire à mon frère, effectivement.
Bon, ça va être drôle. Et puis Saïd El Alami, qu'on a eu la chance déjà d'avoir pour Ousekine il y a quelques années pour Disney+. Bonjour Saïd, merci d'être avec nous aussi.
Bonjour.
Alors, ce roman de Nicolas Mathieu, on peut dire que c'est un roman qui est riche. On parle de la période où on quitte un peu l'adolescence pour arriver un peu dans le monde adulte à travers le destin de jeunes qu'on parcourt sur 6 années à peu près de vie. Parce qu'on démarre en août 92. Alors évidemment, moi, ma génération, toute la bande-son, elle est absolument extraordinaire. Elle nous rappelle éventuellement et évidemment beaucoup de beaux souvenirs. Et puis, elle nous emmène quasiment jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, on va voir un peu tout ce qui se passe pour ces héros pendant toutes ces années. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en tout cas, d'adapter ce roman de Nicolas Mathieu? Est-ce que, parce que là, c'est un gros morceau auquel vous vous êtes attaqués tous les deux, Zoran?
Je crois que déjà, on s'est beaucoup retrouvés dans l'histoire de Nicolas Mathieu, simplement parce que c'est un roman qui parle de la France périphérique. Alors, c'est pas exactement la France dans laquelle on a grandi. Nous, on vient du sud-ouest, du Lot-et-Garonne. Mais c'est une France qui est loin des villes et qui est un peu dans laquelle on peut ressentir un manque de perspective quand on est jeune, pas mal d'ennuis. Donc, on s'est déjà beaucoup retrouvés dans cet aspect-là. Ce qui nous a plu aussi dans le livre de Nicolas, c'est le fait que c'est à la fois un grand livre social et en même temps un livre qui est très populaire, très accessible dans sa forme. Et je crois que c'est ce qu'on a eu à cœur, nous, de restituer dans le film, donc d'essayer d'avoir un propos qui est à la fois social et en même temps un film qui soit grand public. Et voilà.
Quelque chose à rajouter, Ludovic?
Non, je pense que tu as tout dit. Ouais, c'est l'envie de faire un film, comme tu dis, qui puisse être populaire, parce que c'est un film qui parle des gens. Nicolas Mathieu le dit très bien, c'est qu'en 2018, pendant les Gilets jaunes, on parlait de la France des invisibles. Ben, nous, quand on a grandi, cette France-là, c'est la seule France qu'on connaissait, et je crois que c'est aussi la France de la majorité des gens. Et donc, c'est l'envie de faire un film pour les gens, quoi. Je sais que nous, quand on fait un film, on pense toujours à nos parents qui sont pas spécialement cinéphiles. On espère toujours pouvoir faire un film qui leur plaît, quoi. C'est quand même ça le sujet, quoi. On parle des gens, on n'a pas envie de les laisser sur le bord du chemin, quoi. Voilà.
Saïd, si on peut parler un petit peu d'Assine et de ton rôle, est-ce que tu as lu le livre avant? Comment tu as fait pour t'approprier justement ce rôle de Assine?
Bah ouais, je l'avais lu, je pense, un ou deux ans avant le casting. Je savais pas du tout qu'il allait avoir un film là-dessus. Et comment interpréter le rôle d'Assine ? Bah déjà, on a bossé avec Ludo et Zoran, et ensuite, c'était plus dans l'intériorité de savoir un peu ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé. Enfin, c'est un peu un processus que je fais généralement. Et de pouvoir raconter un peu cette violence-là, la nuancer, et un peu savoir d'où elle vient.
Il y a une violence en lui, forte, et qu'on comprend au fur et à mesure du film aussi. Pourquoi ? Où on éprouve même finalement de l'affection, nous, en tant que spectateurs, pour ce personnage, en fonction de ce qu'il vit, évidemment.
Bah, je pense que la violence, elle naît déjà d'un écrasement à l'origine. Donc c'est ce qui est important de raconter, c'est un peu ce que raconte Nicolas à travers le bouquin, ce qui raconte les frères dans le film, c'est de raconter un peu cette exclusion qui fait naître un peu cette violence-là qu'on voit dans le personnage d'Assine et qu'on voit chez Anthony aussi, puisqu'en fait ils vivent un peu la même chose à des endroits, à des égards différents, mais généralement c'est un peu, ils font face aux mêmes contraintes.
Alors on est basculé en août 92 dans l'Est, on va y suivre deux garçons qui s'ennuient ferme, hein, pour le coup, au bord d'un lac, qui vont faire la connaissance de deux jeunes filles. Et un des deux garçons va tomber sous le charme d'une des jeunes filles, et donc le soir va aller la rejoindre, en tout cas à une fête avec sa moto. Et le lendemain, la moto va disparaître, et ça va être tout un engrenage et un cheminement, et le début de quelque chose, le début d'une nouvelle vie aussi pour ce jeune homme. Hein.
Oui, ce qu'on met dans l'histoire, c'est l'idée que c'est le drame qui naît en fait d'un événement très ordinaire. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous
fait. Déclenchement.
Ouais, le déclenchement, c'est ça, c'est déclenché par quelque chose de très banal, qui est le vol d'une moto et qui va causer le délitement d'une famille. C'est une des grandes forces du livre, hein. C'est vraiment que ça raconte, ça fait le portrait d'une génération, le portrait de cette classe sociale-là, et en même temps, ça le fait à travers quelque chose de très simple. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles nous, on a eu envie de donner un écrin de cinéma à cette histoire et d'en faire une grande fresque. C'était l'idée de se dire qu'on va regarder des gens ordinaires, des petites histoires, mais qu'on va en faire du grand cinéma, quoi.
Et au fur et à mesure, on découvre nos deux héros, du coup, Angelina Vorette et Paul Kircher, qu'on découvre évidemment dans ces deux rôles.
Oui, ce qui nous a plu aussi en lisant le livre, c'est que on parle de déterminisme social, donc a priori c'est plutôt un sujet dur. C'est comment on reproduit ce qu'ont fait nos parents avant nous et comment, dans bon nombre de cas, on est un peu assigné dans la classe sociale où on est né. Et en même temps, toute cette histoire est incarnée par les premières amours adolescentes, et ça a quelque chose quand même d'assez universel. C'est ce qui nous a beaucoup plu dans cette histoire, c'est que c'est un coming of age, c'est comment Anthony apprend à devenir adulte, et à travers une histoire d'amour, alors que l'histoire au fond est quand même une histoire sociale, c'est comment Anthony se rend compte que sa place est dans cette vallée, et d'ailleurs c'est aussi le parcours qui le joint au personnage de Assine, c'est comment tous les deux s'opposent a priori autour du vol de la moto, et comment au fur et à mesure des années il se rend compte que finalement ils se ressemblent et ils appartiennent au même monde, mais tout ça est incarné à travers quelque chose d'assez fougueux qui est les premières amours adolescentes. Et un des enjeux du film, c'est aussi de reconstituer ce sentiment amoureux qu'on peut avoir à l'adolescence. Ça, c'est une des choses qui fonctionnait bien avec aussi les années 90, puisqu'on a une époque qui est avant les réseaux sociaux, hein. Et ça permet quand même pas mal de romances. Quand Steph disparaît de la vie d'Anthony, elle peut pas continuer à la suivre sur les réseaux. Et donc il y a quelque chose de plus mystérieux aussi qui entretient la flamme d'Anthony pour Steph au fur et à mesure des années, quoi.
La belle époque. Zoran, on va parler évidemment aussi peut-être de la difficulté que ça peut engendrer au casting, par exemple, quand on adapte un livre, qu'on lit justement les personnages, qu'on se les approprie peut-être aussi dans son cerveau en tant que réalisateur. Est-ce que ça crée une complication à caster après les comédiens pour qu'ils incarnent au mieux ? On va y revenir juste après. En attendant, on écoute la bande-annonce ensemble. Ça s'appelle Leurs enfants après eux. Et donc, ça sort mercredi au cinéma. On revient juste après avec vous.
Tu veux pas qu'on aille à la plage des Cunus ?
Bon, à la base, nous, on était venus pour voir des filles topless, hein.
Pardon.
On va à une soirée ce soir chez un pote à Drimblois, si ça vous dit. Moi, c'est Steph, au fait.
On va pas aller jusqu'à Drimblois en vélo. La seule option, c'est l'YZ.
Si je prends sa moto, mon père me défonce.
Pense à ta copine.
Elle est grave, cette meuf.
Steph.
Alors, Leurs enfants, après eux, c'est mercredi au cinéma. Ludovic et Zoran Boukerma sont avec nous. Saïd El Alami également est avec nous aussi pour parler de son rôle d'Assine. Alors, tous les deux, oui, j'avais vraiment envie de poser cette question, justement. Est-ce que ça crée une complication quand on adapte un livre au casting ou pas, ou par rapport à quand on écrit soi-même, peut-être, comme vous l'avez fait avec vos deux précédents films?
Alors, je crois que la première difficulté, en fait, pour ce casting-là, ça a été le temps qui passe, en fait. C'est un film qui se passe, et un livre, sur 6 ans. Et à un âge où on change beaucoup, puisque le personnage au début il a 14 ans, à la fin il en a 20. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on va trouver un acteur qui puisse jouer ces, tous ces âges-là.
Qui peut aussi bien être rajeuni qu'un petit peu vieilli, peut-être.
C'est vrai qu'on s'est posé la question de prendre deux acteurs, donc un pour jouer 14-16 et puis un pour jouer 18-20, mais on avait peur en fait que ça abîme l'attachement que le spectateur peut avoir au, au personnage.
Vous avez eu raison, parce que franchement, ça marche très bien.
Ouais, et du coup, la rencontre avec Paul Kircher a un peu solutionné en fait ce questionnement qu'on avait nous. Parce qu'il a la particularité d'être assez double en fait, et il est à la fois très adolescent par moments, et à d'autres moments il est très mature et très adulte, et donc il a ça déjà en lui. Donc on a eu nous qu'à travailler en fait cette chose-là et à les creuser avec une chorégraphe pour accentuer un peu le côté 14 ans, donc la maladresse, etc. quand il est plus jeune. Et ensuite un truc où il se redresse progressivement et devient de plus en plus adulte, mais c'est quelque chose qui était déjà là en lui. Et par ailleurs, je crois que ce qui nous a plu chez Paul Kircher, c'est aussi tout ce qu'il avait de différent. Dans le roman, Anthony est décrit comme étant il est violent, il est bagarreur, il est petit, il est très nerveux, etc. Et en fait, Paul est tout l'inverse, en fait. Il est grand, assez maladroit, un peu rêveur. Et je crois que ça a été une façon pour nous aussi de s'approprier, en fait, le personnage de ce roman et de le ramener vers notre cinéma, d'une part, parce que les personnages qu'on a filmés, en général, ont toujours été toujours un peu rêveurs, mal adaptés, etc. Donc ça correspondait plus à ce qu'on faisait comme cinéma. Peut-être aussi davantage aux adolescents qu'on était nous, c'est-à-dire plus réservés, etc. Finalement, on s'est quand même vachement approprié le personnage, et aussi grâce à Paul Kircher. Et je crois qu'on a fait aussi d'ailleurs, le casting de Saïd El Alami qui joue Assine, on l'a fait vraiment en miroir, en fait, avec Paul. On tenait absolument que, même si ces personnages sont des antagonistes dans l'histoire, à ce qu'on puisse s'attacher aux deux de la même manière, en fait. Saïd comme Paul, en fait, ils ont tous les deux cette douceur, en fait, qui est assez naturelle chez eux, et qui s'oppose pratiquement à la violence qu'ils expriment parfois dans le film. Et ça, c'est un truc qu'on voulait vraiment qu'ils soient très semblables, en fait, dans leurs différences. Ouais.
Ludovic, quand Nicolas a vu le film la première fois, parce que j'imagine que vous lui avez montré peut-être déjà la deux jours de la sortie.
Oui, ça a été un des enjeux pour nous. Alors déjà, d'une part, quand on s'attaque, je crois, à un prix Goncourt qui a autant de lecteurs, il y a quelque chose de très intimidant, parce que, enfin, en tant que lecteur nous-mêmes, on sait très bien à quel point voir une adaptation d'un livre qu'on a lu, c'est toujours quelque chose de difficile par moment, parce qu'on se fait sa propre image du livre. Et nous, on a un truc, on est très respectueux aussi des lecteurs et de cette chose-là. Je crois que Nicolas, quand il a vu le film, il nous a dit que ça lui avait beaucoup plu et qu'il avait été beaucoup, beaucoup ému. Je crois qu'il a dit qu'il avait pleuré plusieurs fois, qu'il avait ri aussi. Et ça nous a énormément touchés parce que nous, on est par ailleurs très sensibles au discours de Nicolas, même au-delà de ses livres. Et donc, on avait vraiment à cœur que le film puisse lui plaire. Et je crois que ça a été le cas et ça nous a beaucoup ému, ouais, que ça lui plaise.
Oui, surtout que c'est toujours particulier quand même pour un auteur de voir ses personnages de romans prendre vie comme ça sous leurs yeux et de manière cinématographique, c'est encore plus fort. Saïd, il y a eu des scènes fortes, il y a aussi quelque chose de très chorégraphié, même s'il y a quelques scènes de violence. Alors, il y en a une où tu t'en prends une bonne, hein, quand même. On va pas dire avec qui ni quoi que ce soit, mais on va laisser un peu le suspense. Mais ouais, il y a des scènes quand même pour toi qui ont été certainement difficiles, non?
Bah, c'est intéressant puisque pour moi c'était la première fois que je jouais un personnage aussi violent, on va dire, à un endroit. Donc ouais, c'était assez unique. Pour moi, c'était un peu une chance d'incarner un personnage comme ça, quoi. Et qui a une profondeur aussi hyper intense.
Il y a un antagonisme fort chez ce personnage d'Assine, c'est violent et touchant à la fois. C'est ça qui est, pour le spectateur, qui nous perturbe un peu.
Bah, c'est ce qui est intéressant aussi, hein, à développer.
C'est ça qui est génial. Ta meilleure scène, celle que tu te rappelleras peut-être dans 10 ans.
Ah, bah oui. Bah, j'ai pas envie de spoiler, mais je pense que c'est la pire scène de mon histoire, de ma vie. Il y a un crash, là.
Il y a un crash. Bon, c'est tout ce que tu peux dire. Voilà, donc, et c'est difficile, hein, sans trop en dire.
Bah, ça va, c'est une. Après, en réalité, non, il y en a une autre aussi avec Paul qui est quand même marquante. En tant qu'acteur à faire, c'était hyper intense et magique à faire. Surtout que Paul, déjà au casting, moi, ce que je disais, c'est que je ressentais un peu. Enfin, on jouait ensemble, c'est-à-dire qu'il me renvoyait la balle. Il y avait quelque chose où il ne jouait pas que pour lui, il jouait pas que pour moi, et c'était hyper intéressant. Et du coup, dans ces deux scènes-là, très violentes, on va dire, bah, ça se ressentait et c'était assez marquant, quoi. Ouais.
Dans une où t'es derrière lui, non?
Exactement.
Voilà. On n'en dira pas plus. Effectivement. Bon, en tout cas, on va découvrir ce film. Ça s'appelle Leurs enfants après eux. Ça sera donc mercredi au cinéma. On va terminer par vos projets aussi, peut-être, parce que est-ce que vous avez déjà des projets pour la suite? Est-ce que vous êtes déjà sur la préparation d'un quatrième long, peut-être, tous les deux?
Ouais, on est en écriture du ouais, notre cinquième long, effectivement, quatrième à deux. On écrit un film original, cette fois pas adapté d'un livre, qu'on espère tourner l'année prochaine au mieux, voilà. Un film qu'on écrit en anglais, c'est une envie qu'on a depuis très longtemps. Quand on était adolescent dans Lot-et-Garonne, on écrivait nos premiers longs métrages en anglais, parce qu'on tenait absolument à faire des films aux États-Unis, et puis là, c'est peut-être ce qui va se concrétiser pour le prochain. Ouais.
On espère.
Ouais. Saïd, pour toi, je sais, il y a plein de choses depuis Oussekine, ça s'est accéléré quand même pour toi.
Hein. Bah, il y a La Pampa qui sort aussi en février, d'Antoine Chevrolier. Et ensuite, non, il y a des tournages prévus en 2025, on verra. Hein. ça prend du temps, c'est un métier qui prend beaucoup de temps.
C'est un film qui parle à la jeunesse. Dernière question que j'avais envie de vous poser. Vous l'avez présenté au festival de Sarlat début novembre devant une foule de lycéens qui apparemment terminaient vraiment en liesse cette projection. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir leur réaction quand on sait que ce film s'adresse aussi à eux, peut-être en premier?
C'était très émouvant en fait de montrer le film à des lycéens. C'est un public qui est souvent assez difficile à capter. Et là, je crois que ça a été, si on devait faire à l'applaudimètre, je pense le plus bel accueil qu'on ait eu dans un festival pour le film. Et ça nous a fait vraiment très plaisir parce qu'on sait que c'est le film parle d'adolescence en fait et que ça puisse toucher les adolescents d'aujourd'hui. Pour nous, c'était assez important et ça s'est un peu confirmé grâce à cette projection. Donc ouais, on est content ouais, de ça.
T'as eu des retours aussi, j'imagine, Saïd.
Bah, je pense que c'était le meilleur accueil du film. Et conquérir un peu la jeunesse, les voir comme ça, enjouer à l'idée d'avoir vu ce film et d'en parler, c'était le plus beau cadeau, je pense.
Leurs enfants après eux, mercredi au cinéma, à ne pas manquer, et bien évidemment, dans toutes les bonnes salles. Merci beaucoup Zoran, merci Ludovic, merci Saïd et à bientôt.
Merci beaucoup, merci à vous.
Merci. Qu'est-ce que t'as fait avec la moto?
Quand on est sorti de la moto, il était plus là.
Je suis mort, putain!
Je vais me casser. Je vais aller à Austin, au Texas.
Pour aller où?
Où tu veux. Nulle part.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Trois coups de cœur ciné. Le premier consacré à Saint-Ex avec Louis Garrel qui sera notre invité. Baptiste Caplin viendra nous rejoindre pour Jamais sans mon psy. Et avec Louise Courvoisier, nous parlerons de la sortie du film Vain Dieu.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android Chute. On écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.